par les femmes.
Présenté par Anan Zawani
sur France Maghreb 2.
L'interview Femme d'influence est dédiée à Christine Janin. Donc Christine Janin est médecin et alpiniste. Elle est la première française à avoir atteint le toit du monde, donc l'Everest, le 5 octobre 1990. Et elle est aussi la première femme au monde à avoir atteint le pôle Nord sans moyens mécaniques ni chien de traîneau, le 4 mai 1997. Donc après l'expédition de l'Everest, elle se lance en 1992 dans l'ascension du plus haut sommet de chaque continent. Et à son retour de ce tour du monde extraordinaire, donc Christine Janin rencontre Hélène Voisin, directrice de l'école au sein de l'école de l'hôpital Trousseau à Paris. Donc celle-ci propose d'aller à la rencontre des enfants à l'hôpital pour leur raconter ses voyages et ses exploits. Donc de cette expérience auprès des enfants naît une idée forte, celle du parallèle entre les difficultés rencontrées pour conquérir un sommet et celle vécue pour vaincre la maladie, celle du cancer, le diagnostic et l'avalanche, l'itinéraire et la voie vers la guérison, la chambre stérile et les tentes de bivouac en altitude. Nous sommes honorés, Madame Christine Janin. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2. Bonjour.
Salam. Bonjour.
Salam. Alaykoum salam.
Salam alaykoum.
Que la paix soit sur vous, Madame Janin. Donc, une championne qui se met au service des femmes et des enfants. Vous êtes présidente de l'association À chacun son Everest. Vous nous en parlez, Madame Janin ?
Oui, alors surtout, moi je suis médecin à la base. J'ai eu la chance, la médecine m'a permis de réussir quelque part tous ces sommets, parce qu'à la fois je connaissais la physiologie de l'altitude, parce que j'étais libre d'échouer, parce que j'avais un métier. Et aussi parce que voilà, je crois que j'avais cette connaissance du corps. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir transformer en rencontrant d'abord des enfants à l'hôpital et de pouvoir leur proposer après de venir réaliser aussi leur Everest et de réaliser qu'ils avaient réalisé un Everest et de les aider à redescendre. Parce que quand vous êtes arrivé à un sommet, quel qu'il soit, que ce soit l'Everest, que ce soit la maladie, que ce soit toutes les épreuves, après il faut vivre avec, il faut le transformer et là ça devient un autre chemin qui est des fois parfois plus compliqué, plus dangereux, parce qu'on croit que c'est fini, on croit qu'on a gagné, et en fait, c'est un autre chemin qu'il faut appréhender différemment pour retrouver l'énergie, la confiance, l'estime de soi, et surtout ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.
Tout à fait. Alors, cette association À chacun son Everest, elle accompagne des enfants, 2000 enfants et adolescents. Et vous avez accompagné également des femmes. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière vous les accompagnez, justement ?
Alors, depuis 20 ans, effectivement, pendant 20 ans, j'ai accompagné que des enfants. On a accompagné déjà, depuis l'association à 25 ans, donc 4561 enfants. Et en 2011, j'ai décidé aussi d'ouvrir aux femmes atteintes d'un cancer du sein. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est les femmes et les enfants d'abord, que je me suis rendu compte que les femmes, que le cancer du sein était très banalisé, que oui, tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un cancer du sein, on en guérit et tout, et que non, pas du tout, c'est une véritable épreuve. Et puis en plus, je me suis rendu compte que c'est des femmes qui étaient jeunes, qui avaient 30, 40, 50 ans, il n'y a pas que des femmes âgées. Et puis surtout, elles s'occupaient en général du mari, des enfants, du boulot, et puis elles prenaient pas trop soin d'elles. Et puis que, comme pour les enfants, j'ai envie de dire que aussi on guérit de mieux en mieux. Les enfants, on les guérit à 80%, les femmes, on guérit pas à 100%, mais je pense 75-80%, donc c'est bien, mais qu'elles sont pas toutes guéries, et elles vont pas toutes guérir, et que une fois que vous êtes au sommet, toutes ces femmes gardent vraiment une conscience de ce qu'elles ont vécu, elles ont du mal à redescendre parce qu'elles sont pleines de peur, elles sont très souvent seules, la maladie ça isole, que personne ne peut les comprendre, personne ne comprend ce qu'elles ont vécu. Ah mais c'est bon, t'es guérie et tout, maintenant tu rentres à la maison, et elles sont mais épuisées, le corps a changé, elles ont été ménopausées pour certaines, elles ont perdu leurs cheveux, elles ont pris du kilo, elles sont mais épuisées, et elles sont vraiment dans un état de désespérance parce que oui, c'est lourd, c'est compliqué, elles sont jeunes et puis elles ont peur pour leurs enfants. Donc voilà, il y a toute cette après-cancer. Et depuis que j'ai ouvert aux femmes, je savais que les enfants c'était bien, que c'était important. Mais je pense que l'action pour les femmes est encore plus forte. Parce que toutes ces femmes finalement, elles ont la conscience de tout ça, elles s'occupent des enfants et tout, puis elles ont peur. Puis en même temps, donc, c'est leur permet de partager, de rencontrer d'autres et tout d'un coup retrouver confiance, de pouvoir s'autoriser à rire parce qu'elles n'ont plus du tout envie de rire, elles sont épuisées et leur redonner un élan de vie aussi derrière.
Alors tout à fait, Madame Jana, hein, comme le souligne le plan cancer, la nécessité de l'accompagnement est très importante. Oui. En dehors du parcours médical, il existe très peu de prise en charge justement pour accueillir ces femmes. La dépression est très fréquente.
Bien
et
sûr.
Justement, vous vous appuyez sur votre passion, sur votre sport et vous les aidez justement à dépasser leur maladie grâce au sport comme un outil thérapeutique. On est en direct, hein, auditeur, auditrice, ou en tout cas on est en duplex de Chamonix, car il se trouve que l'association À chacun son Everest est à Chamonix. Et vous êtes de retour là, il y a quelques minutes, il y a à peine 10 minutes. Vous êtes de retour de randonnée.
On était à 2000 mètres d'altitude, oui, tout à fait.
Alors, vous pouvez nous en parler justement de cette randonnée.
Il y a moins d'une heure, on était à 2000 mètres d'altitude, on était un peu dans la tempête, il commence à y avoir un peu de neige. Et toutes ces femmes, tout d'un coup, qui ne se croyaient pas capable de monter tout, réalise des sommets, vont faire des ascensions de 1000 mètres de dénivelé. Dans la semaine, on a fait 1000 mètres. Aujourd'hui, encore 600 mètres. Et à travers du sport, à travers de l'escalade, des soins de support, on fait des massages, du yoga, du qigong. On a des oncopsychologues qui viennent aussi. On a des entretiens. Il y a tout un mix de soins de support, d'échanges, de partage, et puis d'écoute, et puis du sport, pour leur permettre justement de retrouver leur corps, retrouver la joie de vivre, retrouver le sourire et surtout, ce que je leur dis, de pouvoir partir d'ici libre, fière et légère de ce qu'elles ont vécu et de nous lâcher tout ce qui est lourd. N'ont pas été suivis. Alors heureusement, je crois que maintenant, de plus en plus dans les hôpitaux, il y a des programmes actifs, il y a des prises en charge à Curie, c'est vraiment très bien fait, à Saint-Louis aussi, à l'IGR. Il y a
tout
beaucoup d'hôpitaux maintenant où de plus en plus sont pris en compte justement toutes ces difficultés de l'après-cancer et des soins de support sont vraiment mis en service, heureusement. Pas complètement encore et c'est vrai que une fois les derniers traitements faits, la radiothérapie, il y a un autre chemin et c'est là où il faut que l'entourage aussi comprenne que c'est pas fini, que c'est elles ont besoin d'être comprises, elles ont besoin de parce que le cancer c'est tabou, il y a aussi cette difficulté d'être connu, beaucoup se retrouvent seuls, vont perdre leurs amis, etc. parce que les gens
leur mari
n'osent pas en parler. Les maris, il y en a pas qu'un qui s'est barré pendant la chimio. Il y en a des formidables, mais en même temps, il faut se mettre à la place de l'accompagnant, c'est compliqué.
Oui.
Ils ne peuvent pas comprendre, ce que j'explique aux femmes, aux enfants, on ne peut pas comprendre ce que c'est que de monter à l'Everest, on ne peut pas comprendre ce que vous vivez. Donc il va falloir que eux aussi, vous leur expliquiez et que ensemble, vous avez fait cette grande montée, il va falloir redescendre tous ensemble.
Alors dès le démarrage, effectivement, la nécessité d'être accompagné soit par la famille, soit par un médecin, pour justement éviter la dislocation du couple. Hein. Il faut savoir que c'est un divorce plus d'un divorce sur deux, donc c'est quand même énormissime.
C'est un vrai tremblement de terre. C'est un drame, oui.
C'est un drame. Alors, juste pour revenir sur l'association À chacun son Everest, aujourd'hui, vous accueillez des femmes, on le répète, qui sont en rémission d'un cancer du sein et à la fin de tout traitement lourd. Alors, quelles sont les femmes qui peuvent s'adresser
Malheureusement, il y a 53 000 femmes en France qui sont atteintes d'un cancer du sein. Vous comprendrez bien que je ne peux pas toutes
bien
les accueillir.
Sûr.
Donc, j'ai proposé, en tous les cas, d'accueillir les femmes de la région Rhône-Alpes parce qu'elles sont sur place et puis des femmes des gros services parisiens avec lesquels parce que j'ai commencé à Paris avec les enfants avec Curie, Saint-Louis, l'IGR, voilà. Puis après il y en a quelques-unes qui peuvent faire des demandes et tout, on va étudier. Et puis moins de 55 ans parce que c'est vrai que j'accompagne surtout les femmes qui sont encore jeunes, qui vont reprendre le travail, qui ont des enfants et qui ont besoin à ce moment-là d'être reboostées pour leur redonner cet élan de vie.
Alors, Madame Jeannin, un numéro de téléphone où vous joindre ou des réseaux sociaux pour nos auditrices?
Le plus simple, ça va être sur le site internet à chacunsonivresse.com ou sur Facebook, de pouvoir nous envoyer des messages et de pouvoir aller voir un petit peu ce qui se passe et comment ça fonctionne. Tout ça, c'est possible parce qu'il y a une belle cordée et dire que aussi, voilà, il y a des gens qui nous aident et qui sont là derrière. Et voilà, c'est, j'adore ce, tout ce cercle vertueux où tout le monde s'entraide et voilà, je voulais remercier un peu tous ceux qui sont derrière nous aussi et rendre hommage à tous les médecins, les infirmières, tout le corps soignant qui font tout ce travail magnifique qu'on peut avoir en France de ces soins qui permettent de guérir.
On vous remercie infiniment, on vous dit
et,
à...
Et dernier oui, message, c'est avec... vraiment croyez en la guérison, croyez que c'est possible, il faut être dans ce message de positivité pour que, voilà, ça, on a des meilleures chances de réussite, bien sûr.
On vous remercie. Donc, auditeur, auditrice, Christine Jeannin, on peut la lire, hein, Dame de pique et femme de cœur. Donc, c'est son dernier ouvrage, donc dédié à la question. Donc, elle nous parle de l'association À chacun son Everest et justement de ce parallèle, parcours de vie. On vous remercie. On vous dit à très bientôt sur les ondes de France Maghreb 2, Madame Jeannin.
Merci beaucoup. Choukran.
Choukran. Choukran à la wajib. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Par les femmes. Et si on sortait avec Samia Chiki?
Bonjour, cette semaine, je vous invite à un programme très riche autour de l'Urban Film Festival qui aura lieu du 7 au 13 octobre au Forum des Halles et dans d'autres salles de l'Île-de-France. C'est le premier festival du film qui est consacré à la ville, aux pratiques et aux modes de vie qui en émanent. Alors, plusieurs films seront en compétition. La projection des films en compétition, elle, aura lieu le samedi 12 octobre de 16h à 18h. Il y aura également des rencontres débats et inédit, une initiation à la cascade avec Malik du film Yamakasi. Donc ça se déroulera le dimanche 13 octobre au Central Park à 13h. Et toute la semaine, donc à l'occasion de cet Urban Film Festival, on vous proposera également donc des graffitis et du street art autour du monde. Un programme qui est très riche et disponible donc sur le site www.urbanfestival.com. On continue avec la fête de la science qui, elle, a lieu du 11 au 13 octobre. À cette occasion, on a le Palais de la Porte Dorée, la Cité des Sciences et bien d'autres qui y participent et vous proposent gratuitement des ateliers, des projections et des jeux. Vous avez également un concours de dessin qui est organisé par le magazine Mon Science et Vie Junior et qui est ouvert jusqu'au 31 octobre. Donc faites participer vos enfants à ce concours puisque c'est gratuit. Est ouvert jusqu'au 31 octobre. L'inscription peut se faire directement sur le site de la Fête de la Science. Et on continue puisque ce mois donc est dédié à Octobre Rose. À cette occasion, un défilé de mode spécial turban est organisé à la mairie du 9e arrondissement de Paris le 15 octobre à 19h30 et c'est ouvert à tous. À cette occasion également, on vous propose le 11 octobre d'assister à l'exposition des photographes finaliste de la 8e édition du concours Estée Lauder sur le pont de l'ENA. Mais surtout, n'oubliez pas, l'ouverture et la richesse de l'esprit s'épuiser dans la culture des uns et des autres. Merci, à la semaine prochaine.
Nous n'oublions pas, ma chère Samia, et sans transition, ode à mes seins, la drôle d'humeur d'Alison Wheeler.
Quand j'étais toute petite, je voulais des seins magiques pour voir la vie en rose. Puis ils ont un peu poussé, pas en même temps, c'est vrai, ça me fait quelques névroses. Je complexais sur ma poitrine devant des magazines qui m'en montraient des fausses. J'ai appris à vous aimer comme vous êtes, affronter les premiers 10 camions pouette-pouette. Et dès que je les aperçois, tout près je sens en moi mon cœur qui bat. Quand je marche dans la rue, abordé par un inconnu, je vois la vie en rose. Il me dit des
des mots d'amour. Des wesh mademoiselle, on fait un tour. Et ça me fait pas grand chose. Même quand je porte un col roulé, ces mecs sont excités. C'est que c'est pas de votre faute. Marc, on leur dise ce qu'ils doivent faire. Mes seins sont free et j'en suis fière. Je les amène au boulot, on fait un beau trio. Je vois la vie en rose. Quand je regarde mon salaire, que j'en perds mes ovaires, je vois la vie en rose. 20% de thunes en moins, juste parce que j'ai des seins, je vois la vie en rose. C'est à vous mettre vraiment la haine, à vous donner l'envie de devenir femme. Ils finiront par tomber, la loi de la gravité ne fait jamais de pause. Subissant l'effet du temps d'un bébé qui vous prend pour une pompe à lactose. Il défile pas pour Victoria's Secret, mais petits gants de toilette jusqu'à la ménopause. Des fois j'ai même l'impression qu'il sourit sur les clichés de mes mammographies. Mais
la drôle d'humeur d'Alison Wheeler, toujours piquante. Alison, donc c'est l'heure d'Instant Santé avec Hennouna. Bonjour Hennouna.
Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du cancer du sein, puisque c'est octobre rose. Par contre, pas le cancer du sein chez la femme, mais j'aimerais parler des hommes. Et oui, effectivement, tous les ans, environ 500 cas de cancer du sein masculin sont diagnostiqués. C'est à peu près 1% du nombre total de nouveaux cas. Contrairement aux apparences, les seins féminins et masculins ont de nombreux points communs. La vraie seule différence, bien sûr, c'est la taille. Le sein féminin est bien plus gros, quoique. Il est constitué de muscles, de graisse et d'un réseau de lobes et de galactophores qui permettent l'allaitement en transportant le lait et qui composent la glande mammaire. Cette glande s'est développée à la puberté chez la femme sous l'effet des hormones. Chez l'homme, la composition du sein est sensiblement la même, mais en beaucoup moins développée. La glande mammaire ressemble à celle d'une femme, mais avant la puberté. Si les hommes aussi ont des seins et des glandes mammaires, alors eux aussi peuvent développer des tumeurs cancéreuses. Il existe des facteurs de risque communs au cancer du sein chez l'homme et chez la femme. L'hérédité, l'exposition aux radiations ou encore des maladies antérieures bénignes du sein. Mais il y a d'autres facteurs spécifiques aux hommes. Les problèmes testiculaires, l'infertilité, une cirrhose ou des seins particulièrement développés. Ce que l'on appelle la gynécomastie. Mais dans beaucoup de cas, les raisons du cancer, elles ne sont pas identifiées. La tumeur atteint souvent des stades très avancés avant qu'un diagnostic ne soit posé. Il y a une méconnaissance associée à l'absence de symptômes flagrants et l'impossibilité de mettre en place un dépistage. Tout cela fait que le taux de survie à 5 ans est moins bon chez l'homme que chez la femme.
C'est inquiétant, ça.
C'est très inquiétant, oui. Parce que en fait, il y a un très gros risque de métastase puisqu'il n'est pas diagnostiqué.
Parce que les femmes, du coup, nous, c'est vrai que les campagnes de prévention, tu m'en parlais.
Voilà, d'accord. C'est ça. Si certains hommes vivent bien le fait d'avoir un sein en moins, pour d'autres, c'est très difficile. Donc, il existe aussi la chirurgie reconstructrice chez les hommes. Il s'agit souvent de combler la cicatrice par une greffe, puis de redessiner une auréole en tatouage. Parce que c'est en faisant cet article que j'ai découvert ça, parce que chez la femme, je connaissais.
Oui.
Parce que la reconstruction, c'est vachement important. Mais chez les hommes, je ne savais pas. Donc, j'ai découvert ça. Et avec les campagnes de dépistage systématique du cancer du sein chez les femmes, c'est une pathologie que l'on guérit de mieux en mieux, car elle est souvent prise dès le début. Chez les hommes, la maladie n'est pas plus violente, mais le manque d'informations, le tabou de parler de ses seins à son médecin font que le cancer est souvent détecté à un stade plus avancée que chez les femmes, la maladie provoque donc plus souvent des décès.
Une petite info justement, Hanen, parce que je suis en train de découvrir, comme nos auditrices et nos auditeurs, cette maladie qui touche aussi les hommes, le cancer du sein. Figure-toi qu'il y a deux jours, le père de Beyoncé, on connaît tous Beyoncé, justement, a choisi de parler de son combat face à la caméra. Et il dit que nous avons besoin que les hommes en parlent.
Eh oui. Et oui, il faut en parler parce que c'est, je vous dis, le problème c'est que le cancer du sein pris très très tôt, femme ou homme, n'a pas besoin on n'a pas besoin de faire de très grands, de grosses thérapeutiques. Par contre, quand c'est pris en retard, femme comme pour homme, il y a des métastases, ça prend...
Et là, c'est mortel.
Ça, voilà, exactement, c'est mortel. Alors, comment on détecte un cancer du sein? Nous, les femmes, on nous a habituées à palper nos seins, à toucher, voir s'il y a une boule autour du mamelon. Parfois, c'est une petite plaie, des douleurs au sein ou au niveau des ganglions, au niveau des aisselles. Donc, messieurs, n'hésitez pas à vous palper et à aller voir votre médecin dès que vous avez la sensation d'une petite masse et ou douleur autour du mamelon ou des aisselles. Il ne faut pas hésiter quand on a mal, il faut en parler.
Merci Hanouna pour ce bel instant santé qui nous apprend des choses. Le cancer du sein, effectivement, on va en parler lors de cette émission. Comme vous, j'apprends qu'il touche les hommes, donc on suit les conseils de prévention de notre chère Hanouna. Donc on se retrouve, nous, juste après la publicité, donc pour le dossier du jour, qui est consacré à Octobre Rose. Et la question, c'est: le cancer est-il encore tabou en France et au Maghreb? A tout de suite sur France Maghreb 2.
Anan Zawani présente
Par les femmes.
Engagée pour améliorer le monde de demain.